Bonjour à tous et à toutes. Je suis très très heureux de m'adresser à vous cet après-midi, de vivre ce moment, ce temps du jubilé de l'espérance tous ensemble. Je m'appelle Laurence Talabourdillon, je suis prêtre du diocèse de Paris et j'ai la joie depuis plusieurs années d'enseigner ici, donner des cours publics à toute personne, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle ne le soit pas, toute personne qui franchit et qui entre dans ces murs émue par le désir de partager, de chercher, de découvrir, essayer de mieux comprendre un certain nombre de questions que se pose notre société et que nous nous posons tous ensemble. Je voudrais vous dire en commençant que on vous a demandé de rentrer par le jardin dans le collège des Bernardins, donc vous êtes rentré par le cellier, puisque ce matin, dans ces murs, se tenait une assemblée de tous les prêtres du diocèse de Paris, ce qu'on appelle une journée du presbytérium de Paris. Et donc les prêtres déjeunaient ensuite dans la grande nef que vous avez vue à l'image. Quand vous repartirez tout à l'heure, prenez le temps de regarder cette nef. Elle sera à ce moment-là accessible, disponible. Voilà. Dans ces murs, des moines nous ont précédés. Et comme le disait le pape Benoît XVI à l'occasion de l'inauguration du collège, ces moines qui ont édifié ce collège, un collège, c'est un lieu d'étude essentiellement. Ils venaient de toute l'Europe ici pour étudier. Ils cherchaient ce qu'ils appelaient les réalités essentielles, ce qui est solide et sûr. Alors, le thème de mon propos avec vous, c'est la parole qui libère. Je voudrais essayer de vous partager quelques réflexions dans le cadre de cette année jubilaire. Chaque année, chaque jubilé, tous les 25 ans, offre aux chrétiens de replonger au cœur de la foi, au cœur de l'espérance qui vient de la parole de Dieu, de la parole que Dieu nous adresse. Et cette parole, pour les chrétiens, c'est incarné dans la personne de Jésus. En cette année jubilaire, c'est un jubilé que le pape François a voulu jubiler de l'espérance. Le monde aspire à la paix. Le monde et l'humanité espèrent la paix. Alors avec vous, dans nos différentes missions d'éducateurs, d'enseignants, de chefs d'établissement ou d'adjoints en pastoral, nous sommes tous serviteurs d'une parole qui édifie, qui éclaire, qui apaise. Tous nous savons le pouvoir incomparable de la parole, du Verbe. Quelles que soient nos convictions religieuses, celles de nos collègues dans leur diversité au sein de nos établissements, nous essayons ensemble de conduire la jeunesse à découvrir ce pouvoir de la parole, de leur parole, de ce Verbe intérieur que chacun porte en soi, que chacun est en personne. Je voudrais avec vous évoquer trois des pouvoirs du Verbe dans sa force de libération. La parole libère, un, de la confusion, deux, de la faim, trois, de la solitude. La parole libère de la confusion, et cela, nous l'entendons comme le tout premier effet de la parole. Nous l'entendons dès la toute première parole. Quelle est cette toute première parole? Pour nous chrétiens, elle se trouve au début du livre de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. La parole libère de la confusion. La parole de Dieu ici fait sortir de l'obscurité, de l'indifférencié. Elle permet de nommer les réalités. Et la lumière fut. La parole est lumière. Elle permet de nommer les réalités, de les distinguer, la parole fait paraître. Certes, une parole humaine peut être confuse, mais sa fonction primordiale, comme nous le voyons dans la parole divine, est de distinguer cette lumière. Avant la lumière du soleil est la lumière de la pensée. Ta parole illumine, dira le psalmiste. Parce que la parole pose une distinction, elle permet la pensée. L'avènement de la lumière dans l'esprit, l'homme parle pour penser, il pense pour parler. Je voudrais vous partager quelques propos qui éclairent cette intuition majeure, par ailleurs bien connue, à travers les mots de Michel Lacroix, professeur d'université, qui publiait dans un livre que je vous recommande et qui s'intitule « Parole toxique, parole bienfaisante ». Il évoquait la puissance de la parole qui va justement libérer de l'angoisse intérieure. Il écrit et il dit ceci. « Je suis enraciné dans le terreau des paroles. Mon identité résulte des échanges langagiers dans lesquels j'ai été plongé depuis les premières heures de ma vie. Mon identité réside dans la manière dont les autres m'ont désigné, m'ont parlé, ont parlé de moi. Elle réside aussi dans la manière dont je parle de moi. Avoir une identité, c'est à la fois être mis en mots par les autres et se mettre en mots. Tout ce que la psychologie du XXe siècle nous a appris au sujet du développement humain met en évidence le fait que ce processus de fabrication de l'homme par le logos commence dès la naissance. Aussi loin que nous remontions dans notre vie, la parole était présente. Quand un enfant naît, il est introduit dans l'ordre du discours, il est immergé dans le langage. C'est une immense, une extraordinaire chance. Même s'il lui faut attendre l'âge d'environ 2 ans pour parler, ses parents, eux, lui parlent. Grâce à cette immersion dans la langue maternelle, l'enfant se construit une représentation élaborée du monde. Il apprend à mettre des mots sur ce qu'il éprouve, ses sensations, ses émotions, ses sentiments, ses pensées, ses désirs. Sans l'instrument de la langue, sa vie psychique resterait à jamais informe. Son intériorité demeurerait obscure, indéchiffrable. Il n'aurait qu'une représentation indigente de la réalité. Ainsi, la parole, dès le commencement, nous a sauvés, nous a libérés du déluge des émotions intérieures que nous pouvions ressentir. Si cette parole libère la vie et les émotions qui sont en nous, elle nous libère aussi d'une autre réalité qui est la faim. Car la parole est une vraie nourriture. C'est son deuxième effet. La parole est la vraie nourriture de l'esprit humain. Et cela se manifeste à nouveau dans une parole biblique que nous trouvons à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Formule que Jésus va prononcer au moment des tentations. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le même Michel Lacroix continue et creuse cette intuition particulière. Il dit ceci, « De même que les protéines contenues dans les aliments dont je me suis nourri ont fabriqué mon organisme, les paroles dans lesquelles j'ai été immergé ont fabriqué mon psychisme. Les paroles, les protéines sont les briques du corps, les paroles sont les briques de l'âme. Les autres me parlent, donc je suis le précipité de leurs paroles. Leur verbe s'est incorporé en moi. C'est ce rôle vital du langage que soulignait le grand linguiste Émile Benveniste dans une formule laconique qui, au-delà de son apparente banalité, se révèle très profonde. Pour peu qu'on prenne le temps de la méditer, le langage sert à vivre. Ceci reste vrai et actuel, dit Michel Lacroix, jusqu'au crépuscule de la vie, et peut-être plus encore à ce moment terminal qu'à toute autre période de l'existence. Car quand il sait que l'heure de sa mort est proche, que fait l'être humain ? De façon révélatrice, il récapitule sa vie, il en rassemble les fils. Il rassemble les fils de sa vie dans un récit de vie qui peut être écrit ou oral, peu importe. Par cette narration de soi-même, l'être humain qui va mourir parachève son identité. Il se fabrique ce que Paul Ricoeur appelle si justement une identité narrative. Il s'efforce de donner rétrospectivement du sens à ce qu'il a vécu. Et nous le savons bien, cet être humain quittera la vie plus sereinement s'il y a auprès de lui un parent, un soignant, un bénévole, un ami, un prêtre, un accompagnant, pour recueillir cette parole, pour entendre cette mise en mots de soi. Alors, chers amis, la parole, nous le savons, est une vraie nourriture psychique. Elle nourrit notre âme, elle éclaire le chemin de notre identité. Elle apaise cette soif profonde qui se tient en nous. Elle est en nous, cette soif sans nous. Elle est en nous malgré nous, soif souvent inavouable, avec cette question qui nous tient et qui se tient en nous. Qui suis-je vraiment ? Pour qui suis-je vraiment ? Que faisons-nous ici ? Pour les chrétiens, la parole qui libère et révèle notre identité et notre destinée a pris forme humaine, visage et corps humain, en la personne de Jésus. Écouter la parole qui libère, c'est alors marcher à sa suite, c'est entrer en amitié avec lui, revêtir son amitié comme une douce protection. La parole qui libère de la confusion, la parole qui nourrit, est aussi, et c'est ce troisième effet, la parole qui libère de la solitude, qui relie à un ami. Cette parole qui nous revêt d'une amitié, le pape François l'a décrite dans un de ses messages destinés au monde des communicants à l'occasion de la journée pour les communications sociales en 2020. Il écrit « L'homme est un être narrateur. Dès notre plus jeune âge, nous avons faim de récits. Comme nous avons faim de nourriture, qu'ils soient sous forme de fables, de romans, de films, de chansons, de nouvelles, les récits affectent nos vies. Même si nous n'en sommes pas conscients, nous décidons souvent de ce qui est bien ou mal en fonction des personnages et des récits que nous avons assimilés. Les récits nous marquent, façonnent nos convictions et nos comportements. Ils peuvent nous aider à comprendre et à dire qui nous sommes. L'homme n'est pas seulement le seul être qui ait besoin de vêtements pour couvrir sa vulnérabilité. Il est aussi le seul qui ait besoin de se raconter, de se revêtir d'histoire pour protéger sa vie. Nous tissons non seulement des vêtements, mais aussi des textes. L'homme est un être narrateur, parce qu'il est un être en devenir. Et la capacité humaine à tisser conduit à la fois au tissu et au texte. Cet être en devenir se découvre et s'enrichit dans la trame de ses jours. Mais, dit le pape, depuis les origines, notre récit est menacé. Le mal s'insinue dans l'histoire. Au fond, nous le savons bien, il faut entendre une parole qui nous rejoigne et qui nous délivre des fausses idées que nous avons sur nous-mêmes. Ce mal, cette parole ou cette inspiration mauvaise qui nous dit « tu n'es que » ou « que cette vie ne mène nulle part, résigne-toi, ta vie n'a pas de sens ». La parole biblique est précisément cette parole qui ouvre un avenir et qui nous libère de l'absurdité de l'existence en déployant des sens possibles. Par nos paroles, nous participons à la lumière ou à l'obscurité du monde. Et c'est avec cette perspective que le pape Léon XIV, au quasiment surlendemain de son élection en mai dernier, s'adressait au monde des journalistes en leur disant ceci. La paix commence par chacun de nous, par la manière dont nous regardons les autres, dont nous les écoutons, dont nous parlons d'eux. En ce sens, la manière dont nous communiquons est d'une importance fondamentale. Nous devons dire non à la guerre des mots et des images. Nous devons rejeter le paradigme de la guerre. Purifions la communication de tout préjugé, rancœur, fanatisme et haine. Nous n'avons pas besoin d'une communication bruyante, musclée, mais plutôt d'une communication capable d'écouter, de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix. Désarmons les mots et nous contribuerons à désarmer la guerre. Désarmer la terre, pardon. Une communication désarmée et désarmante nous permet de partager un regard différent sur le monde et d'agir en cohérence avec notre dignité humaine. Ainsi, c'est clair, la proposition inattendue, la parole désarmée est une parole désarmante. La communication désarmée, qui ne cherche ni le clash ni l'humiliation, est une parole bienfaisante. Je voudrais évoquer avec vous un magnifique petit ouvrage, un petit livre de couleur jaune intitulé « Respire » de Marielle Massé, philosophe et poète, qui s'interrogeait de la façon suivante. Elle disait « Comment se fait-il que lorsque je demande à des personnes « Comment allez-vous » la plupart me répondent « Vivement les vacances, que je puisse respirer, souffler un peu. » Alors elle s'interroge « Comment se fait-il que nous ne puissions pas respirer dans nos milieux de vie habituels ? N'est-ce pas un droit fondamental que de rendre respirables les lieux où nous vivons et travaillons ?» Elle pressent alors que nous cherchons à fuir plus qu'un air pollué, la pollution de l'air atmosphérique, comme nous savons mesurer cette pollution de l'air. Mais au fond, dit-elle, nous cherchons à fuir une autre pollution, une pollution d'un autre type, que nous ne parvenons pas à contrôler et qui a des effets redoutables sur nos psychismes. Et c'est celle-là qui nous fatigue, car, dit-elle, nous respirons l'air du temps. Et l'air du temps est l'air qui contient les paroles que nous mettons dans l'air. Nous respirons, dit-elle, dans la parole des autres, dans les paroles des autres, et les autres respirent les paroles que nous mettons dans l'air. L'air du temps est donc fait de ce que nous mettons comme parole. Dans ce petit livre, elle développe davantage ce qu'elle avait, au point de départ, développé dans un bref petit texte intitulé « Paroles et pollution », dont je vous lis un extrait. Il se pourrait que la parole soit l'une des régions les plus polluées de la planète, et que cela aussi réclame un véritable réengagement. Il y a quelque chose, en effet, dans l'exercice de la parole qui peut participer directement de la contamination ou du soin de nos milieux de vie. La parole peut être une forme de santé, un soin de soi et du monde, si l'on s'en donne la peine. Parmi les responsabilités écologiques que nous avons à l'égard du monde, il y a donc la parole. La manière dont on parle le monde, au monde, dont on se parle du monde. Il faudrait que parler ne participe pas d'une pollution de plus, d'une souillure, d'une insulte, d'un déshonneur fait au monde, d'une négligence de plus, d'une rupture de plus. Ce qui ne signifie pas, j'y insiste, dit-elle, que le langage soit malade ou que nous souffrions d'une maladie de langage, mais que la parole peut être une forme de santé, un soin de soi et du monde, si encore on s'en donne la peine. Je regarde donc la parole comme un don, quelque chose que l'on donne, que l'on met dans le monde, comme on y met ses gestes. Ce n'est pas pour en revenir au don de la parole comme un privilège que les hommes auraient reçu d'un Dieu, ni à ce qui se passe quand on croit donner la parole, comme on ferait l'aumône de ce dont on serait riche, mais pour dire que l'on donne quelque chose quand on parle, que l'on reçoit quelque chose quand il est parlé, donnant, donnant, et qu'il faut donc faire attention à ce qu'on s'entredonne en parlant, à ce qu'on se dit, à ce qu'on s'envoie. Soigne-toi, dit-elle, donc, soigne ta parole et soigne-toi dans la parole. Fais ta part, attache-toi et arrache-toi comme il faut dans et par les phrases. Prends tes responsabilités par la bouche et par la voix. C'est une tâche écologique que tu as à accomplir. C'est le premier service éducatif que tu as à rendre au monde commun. Cette parole qui libère rend le monde respirable lorsqu'elle porte une espérance et dévoile chaque personne comme une bonne nouvelle. Bienvenue dans ce monde. Je voudrais prolonger cette réflexion à nouveau en vous partageant les propos d'un autre auteur qui s'appelle Gérald Garouty. Il est metteur en scène, dramaturge, écrivain. Et comme beaucoup de ceux dont le métier est précisément de parler, il s'inquiète de voir ce monde du verbe et de la parole malmené. Alors il a créé une sorte d'institut de la parole et à travers un petit livre, Comme on se parle. Et dans une manière qui va vous sembler à la fois poétique, mais c'est presque écrit comme du rap, alors je ne sais pas très bien comment le dire, mais je vais essayer de le dire. Vous allez entendre la façon dont il saisit la parole, le verbe. Et il dit ceci. Nous vivons dans un monde de bruit et de fureur. Un monde de tics, de clics et de claques. Un monde de rumeurs, de tweets, de bashing et de clash. D'infox, de swipe, de fake. De battle, de lol, de like. Un monde digital où l'on montre du doigt, où l'on met à l'index, où l'on tranche du pouce, où l'on cloue au pilori, un monde de réseaux où l'on tue pour un mot. Jamais l'humanité n'a autant pris la parole, phénomène inédit dans l'histoire, à mains égards, opportunité inouïe. Tout le monde s'exprime, s'étale, se lâche, se fâche, se casse, partout ça parle. Mais est-ce que ça s'écoute? Est-ce que pour autant on se parle? Qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui se dit? Désormais, chacun peut donner de la voix, prendre parti, publier son avis, proclamer à haut cri, en un sens, c'est une chance, un sens, oui, mais lequel? Tout dépend. Qui parle? Pour dire quoi? Au nom de quoi? À qui? Comment? Pourquoi? Il faut voir, dit-il, comme on se parle. L'humanité en moins? De ce pouvoir extrême, quels usages faisons-nous? De façon écrasante de nos jours, l'énonciation dégénère en dénonciation, en stigmatisation, en ségrégation, en destruction. Qu'ils visent ou non à détruire, pour beaucoup les mots ne veulent plus rien dire, gage d'inconscience, vide de sens et pleine de violence, telle s'impose aujourd'hui dans sa version massive, la parole. De la parole, alors, dit-il, nous refusons la réduction à ces versions éruptives et délatrices, cancanières et moutonnières, babillardes et concassées. Nous ne laisserons pas le dernier mot à l'image, sous prétexte qu'elle prétend tout dire. Nous savons, nous qui vous parlons, que le visible n'épuise pas tout, que l'essentiel est invisible pour les yeux, que les enfants se font aussi par l'oreille. Nous rejetons la culture du mot jetable, aussitôt balancé, aussitôt évacué. Par-delà le déluge des vains propos, d'emblée engloutis dans le fleuve de l'oubli, dans la longue patience des travaux et des jours, nous nous efforcerons de bâtir, à travers notre ouvrage, un trésor pour toujours. Le babil passe, la parole demeure. C'est elle qui nous tient à cœur, elle qui nous tient debout. Qui sous-tend le « nous », nous relie au « tout ». Autant dire que la parole, ça s'apprend, ça se travaille, ça se sculpte, ça se conçoit, ça s'ouvrage, ça se pense, ça se façonne, ça s'incarne, ça se met en forme, ça se transmet, ça se donne. Ça vous pose un être, avoir une parole et s'y tenir. Il nous faut apprécier en quoi la parole nous fonde, en quoi le verbe nous constitue, en quoi la pensée se fait dans et par la parole. Cette aventure de la parole qui sous-tend notre humanité, qui étaye notre être au monde, il nous revient de la cultiver. Elle se forme jusqu'à atteindre la maîtrise. Fin de citation. Après ces évocations de ces auteurs qui sont attentifs au pouvoir de la parole dans nos espaces de vie, dont nous pressentons bien que quelque chose se joue d'immense tandis que nous parlons, et que du reste, comme chrétiens, s'il fallait pendant cette année du jubilé, que nous puissions replonger, comme je le disais en commençant, au cœur de la foi, c'est que nous redécouvrions le pouvoir de ce verbe de vie dont l'Église est gardienne et qu'elle porte non pas pour elle mais pour le monde, et que ce verbe va se dire à travers chacun et chacune d'entre nous. Et que ce verbe, du reste, se dit certainement lorsque nous sommes baptisés, mais pas que, car toute personne est une créature de Dieu, un langage de Dieu, et Dieu lui-même parle de lui à travers chacun et chacune d'entre nous. Je voudrais terminer mon propos en vous partageant les trois défis éducatifs que le pape Léon a eus à l'occasion du jubilé des éducateurs qu'il a célébré à Rome, et à l'occasion de la parution d'un document qui s'intitule, d'une lettre apostolique qui s'intitule « Dessiner de nouvelles cartes d'espérance », à l'occasion du 60e anniversaire de la déclaration conciliaire « Gravissimum Educationis » du Concile Vatican II. C'est une tradition dans la vie de l'Église que un texte important, celui-là du Concile Vatican II en 1965, soit comme revisité 60 ans plus tard par une nouvelle lettre du pape actuel, du pape Léon. Tout en reprenant ces enjeux, le pape regarde le monde et identifie trois défis éducatifs majeurs que j'évoque rapidement avec vous. Le premier de ces défis, c'est l'éducation à l'intériorité, à la vie intérieure. Entendre, dit le pape, entendre l'appel des jeunes qui nous disent « aidez-nous dans l'éducation de la vie intérieure ». Et en fidèle disciple de saint Augustin, le pape Léon dit, cite saint Augustin, « Le son de nos paroles frappe vos oreilles, mais le maître est au-dedans de vous. » Le maître est à l'intérieur. Nous vivons, dit le pape Léon, dans un monde dominé par des écrans, des filtres technologiques souvent superficiels, dans lesquels les élèves ont besoin d'aide pour entrer en contact avec leur intériorité. « Ne va pas au dehors, dit encore saint Augustin, cherche en toi-même, la vérité réside dans l'homme intérieur. » Les jeunes demandent de la profondeur, ils ont besoin d'espaces de silence, de discernement et de dialogue avec leur conscience, avec Dieu. Le deuxième défi, dit le pape Léon, c'est une éducation au monde numérique. Au fond, il exhorte et dit aux jeunes, ne laissez pas l'algorithme écrire votre histoire. Utilisez la technologie avec sagesse, mais ne laissez pas la technologie vous utiliser. Alors nous éduquerons par la parole à l'utilisation judicieuse des technologies et de l'intelligence artificielle, en plaçant la personne avant l'algorithme, comme dit Léon, en harmonisant les intelligences techniques, émotionnelles, sociales, spirituelles et écologiques. Et enfin, pour conclure, une éducation à la paix. C'est le troisième grand défi qui est au cœur du pacte éducatif mondial, et le pape Léon redit cette parole qui restera sans doute une des formules de son pontificat, puisqu'en fait, comme Jean-Paul II est resté mémorable pour avoir dit « N'ayez pas peur » au balcon de la loggia de Saint-Pierre, le pape Léon lui a dit « Une paix désarmée et désarmante ». Une paix désarmée et désarmante. En effet, dit-il, il ne suffit pas de faire taire les armes, il faut désarmer les cœurs, renoncer à toute violence, à toute vulgarité. La paix des armées est désarmante. Nous éduquerons au langage non violent, à la réconciliation, au pont et non au mur. Heureux les artisans de paix. Dessiner de nouvelles cartes de l'espérance, telle est l'urgence de notre mandat d'éducateur. Et Léon conclut, je demande aux communautés éducatives, désarmez vos paroles, levez le regard, gardez votre cœur. Désarmez vos paroles, car l'éducation ne progresse pas par la polémique, mais par la douceur et l'écoute. J'appelle, dit Léon, toutes les institutions éducatives à inaugurer une ère nouvelle qui parle au cœur de nouvelles générations en réconciliant savoir et sens, compétences et responsabilités, foi et vie. Ainsi s'achève mon propos avec vous. Joie de partager cette mission éducative, de la porter ensemble, de nous soutenir ensemble et de savoir que le Seigneur appelle et compte sur chacun et chacune d'entre nous, sur chacun et chacune de ceux qui sont nos collègues dans les établissements qui n'ont pas pu venir se joindre à nous, mais qui sont engagés comme parole vivante au service de la jeunesse que Dieu nous donne. Merci à tous de votre attention.
Merci Laurent pour ces propos très clairs et inspirants.